Radio Stable.
Morning Edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
Lancer le planning familial a vraiment été un défi, donc on a fait beaucoup de sessions. 5 ans après, on voit plus de femmes au planning familial. On est à 10% de mamans de moins de 18 ans.
Le planning familial, évidemment, c'est ce que c'est, mais dans un camp de réfugiés syriens, dans le plus grand camp même, qui est en Jordanie, à quoi ça ressemble, comment ça marche? Ce sera l'escale reportage d'Un jour dans le monde, grâce à Aurélien Colli, sous les radars, et Amélie Perrier, en République démocratique du Congo, vous l'avez entendu, en Inde et au Pays de Galles, 18h50, le cinéma en VO, et Corinne Pellissier avec l'histoire de famille de Hirokazu Koreeda, qui a été récompensée en mai dernier de la Palme d'Or du Festival de Cannes, et puis 18h55, Le Monde à l'envers, de Jean-Marc Four, qui ce soir entend célébrer la formidable démocratie parlementaire britannique. Allez, direction les États-Unis, le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Saint-Ès. Un jour dans le monde.
Il est un peu, disons, une sorte de modèle américain du journalisme, une sorte de point de mesure, d'étalon, même au point que son image n'inspire pas que des films. Il est au centre d'un film célébrissime, Les Hommes du Président, avec son acolyte de l'époque au Washington Post, Carl Bernstein. Mais Bob Woodward n'est pas juste une légende du Watergate. Depuis, il y a eu d'autres présidents, d'autres hommes aussi à scruter autour de lui. Et son dernier ouvrage sur Donald Trump a fait beaucoup réagir, y compris d'ailleurs à la Maison Blanche. Pour cause, il s'appelle Peur, publié chez nous au Seuil. Il a été lu déjà dans le monde à plus de 2 millions d'exemplaires. Et bonsoir à vous, Grégory Philips.
Bonsoir Fabienne.
Alors Bob Woodward, qui n'a fait qu'une interview radio, c'est pour nous et c'est grâce à vous. Merci Grégory. Je le disais, des présidents il en a vu, des moments un peu tangents de l'Amérique aussi. Mais cette fois, même lui a eu l'air étonné de ce qu'il a pu voir et entendre au sujet de Donald Trump.
Oui, il faut dire que depuis bientôt 2 ans qu'il est à la Maison Blanche, Trump est un président qui offre énormément de matière à un journaliste d'investigation comme Bob Woodward. Pour ce livre, comme pour les précédents, Woodward a mené plusieurs centaines d'heures d'entretien avec des témoins de première main. Il a aussi épluché des centaines de notes de réunion, de journaux personnels, de dossiers, de documents officiels ou privés. Tout ça pour arriver à une conclusion, on va dire, assez effarante. C'est le chaos qui règne à la Maison Blanche. C'est ce que Bob Woodward nous a dit vendredi soir, entretien enregistré chez lui ici à Washington.
Well, what I found in 2 years of work, or almost 2 years.
Ce que j'ai trouvé en travaillant pendant presque 2 années sur la présidence Trump, c'est que les gens les plus proches de lui sont les plus inquiets sur la manière dont les choses se déroulent là-bas. Trump ne sait pas diriger. Dans sa tête, Trump pense « je vais faire ci ou je vais faire cela » et c'est très difficile pour les équipes qui travaillent avec lui au quotidien. Un témoin affirme qu'il a entendu le chef du cabinet du président, le général Kelly, qui est sur le départ, qualifier Trump d'idiot. Chaque jour, Kelly se demande ce qu'il fait là. Pour John Kelly, Trump n'écoute personne. On ne peut le convaincre de rien. Ce même général Kelly explique à qui veut bien l'entendre que c'est le pire boulot qu'il ait jamais eu.
Persuaded of anything, and Kelly said, "This is the worst job I've ever had."
Tous ces gens sont découragés. Et au sein de l'administration, à la Maison Blanche, comme je le raconte dans mon livre, il y a par exemple le conseiller économique Gary Cohn, qui un jour dérobe un document sur le bureau du président, un document portant sur les relations commerciales avec la Corée du Sud. Concernant les accords de Paris sur le climat, ils ont aussi essayé de pousser Trump à accepter un compromis, ou à minima à retarder sa décision. Mais Donald Trump a décidé de se retirer. Sur les questions de sécurité nationale, le secrétaire à la défense Mattis et les généraux ont expliqué au président « Nous avons passé ces accords, par exemple notre participation à l'OTAN, ce sont des dollars très bien dépensés ». Et Trump a éructé, on pourrait économiser beaucoup d'argent si on était plus intelligent. Lui pense que ces accords militaires ne concernent que les autres pays, alors qu'en vérité, ils servent aussi les États-Unis et l'ordre du monde.
Part of the old order, which
Tout le monde sait cela. Et les militaires autour de lui n'arrêtent pas de lui dire « Vous ne pouvez pas vous défaire de cela ». Mais Trump ne l'entend pas. Encore le mois dernier, Trump écrivait sur Twitter que les États-Unis perdent des centaines de milliards de dollars avec des dépenses militaires destinées à protéger d'autres pays. C'est absurde. Son entourage essaye de le lui faire comprendre. Mais il a cette idée en tête et personne ne peut lui enlever. Le président n'agit que de manière impulsive. Si on lui demande, par exemple, d'où vous vient cette idée, il répond qu'il pense cela depuis 30 ans. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, alors vous avez tort. Comme vous le savez, j'ai écrit des articles et des livres sur 9 présidents au total, de Nixon à Trump, depuis presque 50 ans. Je pense que les présidents, les dirigeants de pays comme la France, par exemple, ceux qui dirigent nos institutions, ont besoin de grandir et d'apprendre. Et Trump donne l'impression de ne rien apprendre.
Désolé de vous poser la question de manière aussi franche, mais est-ce que comme le général Matisse qui a déclaré ça, vous considérez que Trump agit comme un enfant d'une dizaine d'années, comme un élève de sixième?
Ce que je fais, mon métier, c'est de rapporter des faits, des informations que j'obtiens par des témoins directs ou par des documents, des notes, telles que nous les avons recensées dans ce livre, datées et avec le plus de précision possible. Je ne porte pas de jugement, mais oui, le secrétaire à la Défense a confié à ses collaborateurs que ce président agissait ou réagissait comme un enfant de CP ou de CE1. Ils essayent de l'éduquer, de lui apporter des informations. Ils l'ont emmené au Pentagone, ils essaient de l'éloigner de son téléphone et de son compte Twitter et du bureau ovale pour lui expliquer, lui faire comprendre. Le général Matisse, encore lui, a expliqué à Donald Trump que la meilleure chose qui soit arrivée après la guerre de 1939-45, c'est cet ordre mondial, ces lois internationales dont dépendent nos démocraties. Trump a répondu à son ministre, c'est du bullshit.
Là, il y a des choses qui ne nécessitent pas qu'on les traduise. Bob Woodward sur France Inter, qu'on retrouve dans un instant. Grégory, juste une question avant que vous nous permettiez d'écouter la suite de cet entretien. Donald Trump, comment a-t-il réagi à la publication de cet ouvrage?
Alors, plutôt mal, hein. Faut dire que le livre a fait l'effet d'une bombe quand il a paru ici aux États-Unis début septembre. Trump dit que c'était un tissu de mensonges basé sur des sources bidons, parle même d'une opération menée par les démocrates pour le déstabiliser. Faut savoir que pendant 18 mois, pendant toute son enquête, Woodward a demandé un entretien au président américain qui a fini par le rappeler, mais fin août, quelques jours avant l'apparition, donc trop tard pour lui dire « Je suis sûr que vous êtes en train de préparer un livre négatif contre moi ».
Bob Woodward, qu'on entend, qu'on écoute ce soir sur France Inter. Grégory, Trump, le nationaliste, Trump, le populiste, et vous avez donc demandé à Woodward si, à son avis, quand on voit ce qui se passe chez nous, en France, en ce moment d'ailleurs, avec le mouvement des Gilets jaunes, il était possible qu'un jour, un pays européen comme le nôtre élise un dirigeant comme le leur, de la même trempe que le président américain. Et voici la réponse de Bob Woodward.
Throughout the world, there's a lot of anger in the United States, in France.
Il y a beaucoup de colère à travers le monde. Aux États-Unis, en France, les gens sont déçus. Ils ont l'impression de ne pas être écoutés par leur gouvernement. L'impression aussi que leurs dirigeants n'ont pas de stratégie, ne prennent pas les bonnes décisions pour défendre leurs intérêts. Aux États-Unis, nous avons ces deux partis politiques, les républicains et les démocrates, et je suis vraiment persuadé qu'aucun de ces partis n'a réussi à expliquer son projet ni ses idées. Conséquence, en 2016, Trump a réussi à se faufiler dans cet espace laissé libre. Et il a détourné le sens de l'histoire, à son profit. Il a dit à ses électeurs, « Je vais faire les choses à ma manière ». Il n'avait jamais été élu à aucune élection. Tout le monde pensait qu'il n'y arriverait pas, mais il a réussi. Ce qui, d'une certaine manière, lui donne raison. En revanche, si vous observez son comportement depuis qu'il est à la Maison-Blanche, proche, il est de plus en plus coupé de la réalité du pays. Il ne se concentre que sur sa base électorale, sur les souhaits de ses supporters. Le reste des Américains est hors de portée pour lui. Ici, aux États-Unis, la tradition veut que le président s'adresse à tous, qu'il essaye de faire les choses au mieux pour tout le monde, y compris pour ceux qui ne sont pas ses partisans. Normalement, tout le pays souhaite que le président réussisse, parce que s'il enregistre de bons résultats, alors tout le pays va mieux. Mais Trump défend avant tout ses propres intérêts. Je pense qu'il est un dirigeant populiste. Mais si vous observez bien sa politique, comme je l'ai fait pour cet ouvrage, elle n'est pas orientée en direction des classes populaires. Sa grande réforme fiscale était avant tout destinée aux entreprises et aux plus riches. Elle n'a pas vraiment été conçue pour venir en aide aux gens qui l'ont élu, ses supporters, cette population du Midwest par exemple. Tous ces gens ont voté pour lui, mais vont être déçus.
Alors, il y a plusieurs, hein, mais il y a un fait marquant, notamment, Grégory, dans cette présidence de Trump, c'est quand même cette enquête sur des soupçons de collusion avec la Russie pendant la campagne de 2016. Là-dessus, Woodward, qu'est-ce qu'il dit ?
Eh bien, je lui ai demandé s'il pensait qu'avant la présidentielle de 2020 ou bien avant celle de 2024, Trump risquait d'être destitué ou en tout cas de connaître des difficultés liées à ses investigations.
Le procureur spécial Mueller mène cette enquête de manière très professionnelle. Lui et ses équipes veulent savoir si les Russes sont tentés d'influer sur cette élection présidentielle en 2016. Comme vous le savez, j'ai consacré plusieurs années de ma vie à enquêter sur le Watergate et sur Nixon. Et la barre est placée très haute quand il s'agit de ramasser des preuves suffisamment solides. Il faut récupérer des enregistrements audio, de certaines conversations, des documents, croiser les propos de multiples témoins. Et à mes yeux, personne n'a encore obtenu cela dans ce dossier. Peut-être que cela arrivera un jour, peut-être que la vérité éclatera au grand jour, peut-être que Trump décidera aussi de limoger le procureur spécial, mais là, ça serait vraiment le déclenchement d'une tempête de feu.
Enfin, Fabienne, pour terminer, c'est vrai que Bob Woodward est un immense journaliste d'investigation, vous l'avez dit, mais aussi un observateur de la société américaine, on le disait depuis un demi-siècle, depuis 9 présidents, et je lui ai posé 2 questions pour finir. 1, pense-t-il que Trump sera réélu en 2020? Et 2, est-ce que le discours du 45e président des États-Unis continue à parler aux habitants de ce pays?
I think it's a national emergency in the United States, and we better wake up.
Je pense que le pays traverse une crise importante. Nous ferions mieux de nous réveiller et de voir à quel point la situation est grave. La gouvernance de Trump, les problèmes économiques, les relations avec la Russie, la Chine, la Corée du Nord, il prend des risques. Un peu comme au casino, Trump est un joueur. Sur le fronton de la Maison-Blanche, on pourrait mettre une pancarte « Casino Trump ». Il a transformé la Maison-Blanche en un casino où parfois des décisions politiques très importantes se prennent, comme sur un coup de dé. Son ancien conseiller pénal, John Dowd, qu'il a assisté dans toute cette enquête russe, a travaillé au plus près de lui pendant 8 mois. Il a entraîné Trump en simulant avec lui une audition. Voilà le type de questions auxquelles vous devrez peut-être répondre. Et qu'a découvert cet avocat réputé? Que Trump ment tout le temps, invente des choses, a parfois du mal à se contrôler.
And have you testify? If you do, you will wind up.
L'avocat a fini par expliquer au président : je ne veux pas être assis à côté de vous et vous laisser témoigner, répondre aux questions du procureur. Si je vous laisse faire ça, vous sortirez de son bureau avec, sur le dos, une combinaison orange. le genre de tenue que les prisonniers portent aux États-Unis. Ici, tenue orange veut dire prison. Et ce conseiller pénal a fini par démissionner parce qu'il pensait que Trump finirait par mentir sous serment, ce qui, évidemment, causerait beaucoup de tort au président. L'avocat a expliqué à Trump, c'est ma responsabilité, en tant que votre avocat, de vous dire que vous n'êtes pas capable d'aller répondre aux questions du procureur Mueller. C'est d'ailleurs comme ceci que se conclut mon livre. Son avocat lui a dit, le problème, c'est que vous êtes un menteur pathologique. Attention, la personne qui dit cela n'est pas un opposant politique. C'est l'avocat, le soutien et l'ami de Donald Trump. Et c'est sans doute là que se trouve le cœur de toute cette situation. Si vous tentez de décrire ce qui se passe en ce moment, c'est exactement là. La guerre est déclarée contre la vérité, contre les faits. On peut débattre de la politique, mais il y a des faits, il y a une vérité. Mon journal, le Washington Post, a dénombré plus de 6200 mensonges ou inexactitudes de la part du président. C'est ainsi qu'il interagit avec le reste du monde, en tordant la vérité. Trump est parti en guerre contre les faits, contre ce qui est réel. Et il attaque la vérité chaque semaine, parfois 2 à 3 fois par jour. Il a lancé cette guerre contre la vérité et elle continue
chaque semaine, souvent 2 ou 3 fois par jour. Voilà, la présidence sur un coup de dé, menteur pathologique, Grégory Phillips, merci beaucoup. Seule interview radio de Bob Woodward. Merci aussi à Franck Ballanger qui a prêté sa voix pour cette interview. L'entretien avec vidéo, Grégory est à retrouver évidemment dans son intégralité sur franceinter.fr. Merci aussi à Amélie Stadelman, la programmatrice du 18-20, qui s'est beaucoup battue pour cette interview, qui a vendu, paraît-il, son père et sa mère. Je crois qu'ils ne sont même pas au courant, dites-moi.
France Inter, Fabienne Saintès. Un jour dans le monde.
La suite d'un jour dans le monde, c'est la visite dans un planning familial de Jordanie, dans un camp de réfugiés syriens. Le contrôle des naissances y est devenu indispensable, mais pas toujours simple à mettre en place sous les radars. Et Amélie Perrier, avec notamment le prix du Taj Mahal en très très forte hausse. Et on vous expliquera pourquoi. Le cinéma en VO, c'est Corinne Pellissier. Enfin, la sortie ce mercredi, aujourd'hui, de la Palme d'Or du Festival. Une histoire de famille, de Kore-eda. Et puis le monde à l'envers. Et Jean-Marc Four, bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous.
Vous la trouvez bien en place et parfaite. Cette démocratie parlementaire
mais
britannique.
Oui, on dit que c'est la pagaille, qu'il va y avoir un vote de défiance dans les minutes qui viennent, possible contre Theresa May. Donc oui, je dis, c'est le moment de faire l'éloge de la démocratie parlementaire britannique.
Dépêchez-vous, dépêchez-vous, faites ça avant 20h. Le tour de la planète continue sur France Inter. Il passe par Sheffield, Angleterre, tiens, justement, avec les Arctic Monkeys, One Point Perspective.
Dance in my underpants. I'm gonna run for government. I'm gonna form a covers band and all. Back there by the baby grand, did Mr. Winter Wonderland say, come here kid, we really need to talk. Bear with me man, I lost my train of thought. Fantasize, I call it quits. I swim with the economists, and I get to the bottom of it for good. By the time reality hits, the chimes of freedom fell to bits. The shining city on the fritz. They come out of the cracks, thirsty for blood. I'm
Arctic Monkeys sur France Inter. One Point Perspective.
France Inter.
Good evening and welcome.
Я размахивал копьем.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars et Amélie Perrier. Amélie, on commence avec une campagne électorale meurtrière en République démocratique du Congo.
Oui, les Congolais voteront le 23 décembre pour tourner la page de la présidence Kabila. Le chef de l'État ne se représente pas, mais difficile, très difficile quand même pour l'opposition de défendre sa place. Au moins une personne est morte aujourd'hui en marge d'un déplacement de Martin Fayulu, l'un des candidats de l'opposition. Hier, lui n'a pas pu tenir sa réunion publique à Lubumbashi. Juste avant son arrivée dans ce fief du sortant Joseph Kabila, la police a tiré à balles réelles sur une foule de plusieurs centaines de personnes.
Voilà, voilà ce que nous sommes en train de vivre ici. Voilà ce que la Kabylie est en train de faire.
Voilà ce que la Kabylie est en train de faire. C'est ce que dit un manifestant filmant un blessé par balle hier avec son téléphone. La Kabylie en référence au système instauré par Kabila, père et fils au pouvoir depuis plus de 20 ans en RDC. Joseph Kabila va donc quitter la présidence. Il a fini par s'y résoudre après avoir reporté l'élection pendant 2 ans. Le président a nommé son dauphin. Il s'appelle Emmanuel Ramazani Shadary, ancien ministre de l'Intérieur. Il a été condamné par l'Union européenne pour avoir violé des droits de l'homme. C'est donc lui le candidat du gouvernement. Et quand lui, il commence sa campagne à Lubumbashi, là c'est dans le calme. Ce dauphin, s'il est élu, en tout cas pourrait ne pas dépasser un mandat, car Joseph Kabila annonce qu'il va rester en politique après le scrutin et pourrait même se représenter dans 5 ans.
Pour faire fuir la foule, Amélie, l'Inde attaque au porte-monnaie les touristes.
La foule du Taj Mahal, le monument le plus célèbre du pays, pris d'assaut par les touristes chaque jour. Depuis quelque temps, les autorités s'inquiètent. Le mausolée du XVIIe siècle, érigé par un empereur moghol pour sa bien-aimée, vacille. Les fondations en bois et le sol en marbre ne peuvent pas supporter les dizaines de milliers de touristes quotidiens, comme l'explique l'archéologue indien Bhuvan Vikrama.
À chaque fois qu'on le touche, on transfère un film gras sur la surface. Même si c'est une quantité infime, ça s'accumule et si on calcule le nombre de personnes qui viennent ici, c'est énorme et alarmant.
Alors le prix d'entrée vient d'être multiplié par 5, de 50 à 250 roupies pour les touristes indiens, l'équivalent de 3,50 $. Pour les étrangers, là le billet passe de 16 à 19 $. Objectif, faire baisser la fréquentation de 15 à 20%, une manière radicale de doucher les ardeurs des touristes pour ce temple de l'amour. Ouais.
Bah, attendez que j'écoute. C'est pour ça que vous vouliez qu'on termine en musique, ce titre qui remporte un succès fou, paraît-il.
Ouais. Vous allez essayer de deviner en quelle langue ça chante.
Attendez. C'est une langue.
Et bah c'est du gallois. Le titre s'appelle Gwen Wynn et ça veut dire empoisonnement. C'est un morceau du groupe Alpha composé de 2 jeunes, Diane Jones et Sion Land. Et du haut de leurs 18 ans, ils viennent de signer le premier tube en gallois qui dépasse le 1 million d'écoutes sur Spotify, la plateforme d'écoute en streaming. Une fierté donc pour le Pays de Galles où il existe un patrimoine musical important. Mais là, Alpha a réussi à franchir les frontières et même à traverser l'océan. Si le morceau atteint tel score, c'est parce qu'il a du succès jusqu'en Pologne, au Brésil ou encore au Mexique. Tout ça grâce à sa petite maison de disques, très dynamique, très maligne. La maison s'appelle PYST. Le distributeur a réussi à caser le titre dans l'une des playlists de Spotify, aux côtés des Strokes, d'Arctic Monkeys ou des White Stripes.
Justement, nous aussi, on est trop fort.
Et le streaming, donc on le voit, abolit les frontières et donne une chance même à de très jeunes inconnus. Alors ce succès ne va pas changer leur vie. Diane Jones, le chanteur et guitariste, a une seule priorité, faire un album. Chaque penny, dit-il, sera investi là-dedans.
Bah écoutez,
il reste modeste.
Mais oui, puis on suivra grâce à vous cet album du gallois. Merci beaucoup.
France Inter.
Doha, Harare, Jérusalem, Mecca.
Le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
São Paulo.
Beyrouth,
France Inter.
Et c'est en Jordanie que nous allons pour l'escale reportage d'un jour dans le monde. La Jordanie qui accueille près d'1 million de réfugiés syriens, vous le savez. 20% sont dans des camps de réfugiés, mais 80% vivent dans des zones urbaines où l'accès au système de santé jordanien est très compliqué pour eux. Bonsoir Aurélien Colli.
Bonsoir.
Aurélien, vous voulez nous emmener dans 2 hôpitaux, c'est ce qu'on entend derrière nous. Ce sont des femmes réfugiées syriennes qui ont la priorité là où vous nous emmenez. Une maternité d'abord qui tente de gérer les grossesses précoces et à répétition. Et puis un planning familial dans le plus grand camp de réfugiés du Moyen-Orient où le contrôle des naissances est devenu primordial. On vous écoute.
Je me trouve à Irbid, dans le nord de la Jordanie, à 20 km de la frontière avec la Syrie, dans un décor plutôt rocailleux et désertique. Je suis devant l'hôpital spécialisé d'Irbid. C'est un immeuble de 4 étages, entièrement rénové, qui abrite la seule maternité gratuite de toute la région pour les réfugiés syriennes. Et je vais retrouver le docteur Saad Abdelaziz, qui dirige l'établissement.
On commence ici à l'accueil. C'est là qu'on prend les noms et qu'on enregistre les patientes. En général, les sages-femmes en profitent pour leur expliquer comment ça va se passer, les traitements, l'importance des visites et des soins prénatales.
La salle d'attente est pleine à craquer. Il y a une cinquantaine de femmes. Derrière, je peux voir les salles pour les examens, les prises de sang, les vaccinations et autres consultations spécialisées.
La plupart des patientes syriennes viennent du sud de la Syrie, de Dera. Ce sont des femmes rurales. Donc une chose importante, c'est l'éducation de ces femmes. La plupart ne savent rien des soins prénatales.
On continue la visite avec la salle des naissances. Ici, environ 300 bébés sont nés depuis septembre, dont Fatima qui est arrivée ce matin. Je vais rencontrer sa maman, Hadir, qui a 20 ans, qui est arrivée de Syrie en 2012, et son papa Mohamed, qui lui a 23 ans.
Salam alaikum.
Salam ya Rab.
Ça va très bien, ils m'ont beaucoup soutenue. Ils s'occupent de moi, du bébé. Heureusement qu'ils sont là parce qu'on est complètement démunis. Ce genre de service, ça n'existe pas en Syrie. Ma sœur qui est là-bas m'a dit que c'était difficile pour l'instant. Nous, on reste ici parce que mon mari est interdit de retour.
Je m'appelle Mohamed. Des membres de ma famille sont déjà venus ici. Ils nous ont dit que c'était très bien, donc on est venus. Ça s'est très bien passé, Dieu merci, c'est mieux qu'en Syrie. Bien sûr que ce serait mieux que les enfants naissent et grandissent dans leur pays, là où leurs parents ont vécu.
Avec leur petite Fatima, Hadir et Mohamed oublient un peu leur vie quotidienne de réfugiés, mais pas le personnel de la maternité, et notamment Imad Ramadi, qui dirige les sages-femmes.
Je m'appelle Iman Ramadi, je dirige les sages-femmes. On a des femmes qui souffrent des conséquences de la guerre en Syrie. Elles sont tristes, déprimées. Certaines ont laissé leur famille en Syrie, d'autres ont perdu leur mari dans la guerre. Certaines sont contraintes de se marier car la famille n'a pas d'argent. Parfois, je fais accoucher des mamans de 13 ans. Ici, les femmes ont besoin d'attention particulière.
Autre décor, je suis toujours le long de la frontière avec la Syrie, mais cette fois dans le camp de Zaatari, où 75 000 réfugiés survivent grâce aux agences de l'ONU et à une trentaine d'ONG. Depuis 2013, il y a eu 10 000 naissances ici, dans la seule maternité du camp. Elle est financée en partie par la branche humanitaire de l'Union européenne et elle est dirigée par le docteur Yaroub Aljouni.
Dans la communauté syrienne, les mères très jeunes, c'est une tendance. En 2013, on avait 33% de mamans de moins de 18 ans. Lancer le planning familial a vraiment été un défi, donc on a fait beaucoup de sessions sur les risques de grossesse précoce ou à répétition. 5 ans après, on voit plus de femmes au planning familial, moins de mamans adolescentes. On est à 10% de mamans de moins de 18 ans.
L'un des enjeux cruciaux ici dans le camp de Zaatari, c'est le contrôle des naissances, car les familles dépendent entièrement de l'aide humanitaire. Le planning familial est donc déterminant et il est géré par le docteur Kifa Boulebdem.
Elles apprécient quand on discute de ça parce que ces femmes n'ont aucune idée, aucune connaissance, aucune information là-dessus. On propose des dispositifs de contraception intra-utérin, la pilule, des injections, des préservatifs. On a fait aussi des sessions d'information pour les hommes. Avant, ces femmes enchaînaient les bébés tous les ans. Maintenant, elles attendent parfois 2 ou 3 ans avant d'en avoir d'autres. Elles sont plus heureuses et elles le font dans l'intérêt de leurs enfants.
Je m'appelle Mehad, j'ai 35 ans. Je suis arrivée en 2013. J'ai 4 fils et 2 filles. J'ai vu le docteur Kifa qui m'a beaucoup aidée. Je prends la pilule et ça se passe très bien. La situation financière est très difficile et j'ai déjà 6 enfants. Je dois pouvoir les élever correctement, qu'ils puissent vivre leur enfance.
Alors contente, mais comme à la maternité d'Irbid, pas d'angélisme tant la situation de ces réfugiés syriens est précaire. S'il y a des avancées sur les grossesses précoces ou à répétition, il y a aussi une inquiétude pour le docteur Yaroub Aljouni, avec lequel on va clore ce reportage.
Notre inquiétude, c'est la nutrition. Si une mère est déprimée, qu'elle allaite mal et qu'elle nourrit mal son enfant, est-ce que ça peut affecter la prochaine génération d'enfants syriens? C'est une question nouvelle et on se penche vraiment dessus.
Aurélien Colli sur France Inter, correspondant à Beyrouth. Aurélien, merci beaucoup. Les Doors sont là sur France Inter, Light My Fire. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. The time to wallow in the mire. China, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. On ferme les Doors, désolé. Moi.
France Inter. Movies are made of light. Le 18-20.
Appelons ensemble votre jour.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Ah, bah quand il faut, il faut. Hein. Le cinéma, voilà, le cinéma en VO, c'est comme ça que ça s'appelle, cette chronique. Bonsoir Corinne Pellissier.
Bonsoir.
En voilà un qui termine en ce moment le tournage de son prochain film, déjà à Paris, avec Juliette Binoche et Catherine Deneuve. C'est Hirokazu Koreeda. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout ce qu'il a fait précédemment, cette histoire de famille, primée donc au Festival de Cannes, Palme d'Or, qu'on attend tous avec beaucoup d'impatience, famille recomposée et atypique qui suscite bien des questions. Bande annonce. Alors Corinne, dans cette famille, on vole un peu, on vit des allocs de la grand-mère, en gros, dans un tout petit appartement, tout ça est parfaitement illégal, et puis un jour, arrive dans ce foyer une petite fille, elle était maltraitée par ses parents, et d'un commun accord, tout le monde décide qu'on la garde.
Voilà, elle deviendra la petite sœur, mais très vite vont se poser évidemment de nombreuses questions. A-t-on le droit de recueillir cet enfant maltraité alors que ses parents sont persuadés qu'elle a été enlevée? Et que vaut-il mieux finalement, une famille indigne ou pas de famille du tout? Voilà quelques-unes des questions que le réalisateur aborde dans ce nouveau film, sorti au Japon en juin dernier et qui clairement déplaît aux autorités. Certains ont carrément parlé d'un film anti-japonais. C'est pourtant un succès au box-office. 9e meilleure sortie de l'année au Japon, 37,5 millions de dollars de recettes, juste derrière Les Indestructibles 2 et Mission Impossible. Mais voilà, le schéma de la famille est une chose que l'on prend très au sérieux. Au Japon, on n'abandonne pas, par exemple, ses enfants à une babysitter. On ne les incite pas à mentir ou à voler. On ne place pas non plus ses vieux parents dans un hospice. Alors imaginez les réactions suscitées par cette famille à contre-courant. Le Premier ministre a carrément refusé de féliciter Koreeda pour sa palme d'or obtenue à Cannes en mai dernier.
Mais alors qu'est-ce qui déplaît réellement et précisément surtout dans ce portrait? C'est l'image qu'il véhicule de la famille en gros?
Alors deux choses essentiellement, ils sont atypiques, à contre-courant, ça ne plaît pas du tout. C'est une famille très précaire qui vit à 6 dans un appartement qui est vraiment minuscule, on dirait presque un placard. La mère a perdu son emploi, le mari chaparde au supermarché, il apprend au plus petit des enfants à faire la même chose. Le petit ne va d'ailleurs pas à l'école, sa grande sœur, elle, danse dans un pipe-show.
jusqu'à la grand-mère qui truande les allocs. C'est pas vraiment le modèle de rêve qu'on a envie d'exporter. Mais pour Kore-eda, ce petit groupe de marginaux forme une famille, la famille qu'on se choisit, disons pratiquement que le réalisateur creuse la question dans quasiment à chacun de ses films.
J'avais envie de peut-être faire en sorte qu'il y ait un regard un peu inversé qui nous ferait nous interroger sur notre capacité ou notre incapacité à justement nouer des liens familiaux, puisque cette famille est certes une famille de criminels, mais en même temps ils arrivent à nourrir et à développer ces liens qui sont des liens très forts et des liens de générosité. Je pense que c'est très lié à mon évolution personnelle, et le décès de ma mère a été pour moi quelque part un moment où je me suis senti orphelin, où je n'étais plus l'enfant de personne. Et puis après, à mon tour, je suis devenu père et la femme qui était à mes côtés est devenue mère. Et c'est là que j'ai réalisé que finalement, cette espèce de récipient qu'est la famille se transmettait de génération en génération et que le rôle de ceux qui partaient, laissés vacants, était à nouveau occupé par la génération suivante. Je crois que c'est pour ça qu'au fil des films, je continue toujours de m'interroger sur cette même question.
Et alors, Corinne, c'est très beau, c'est très tendre, c'est très délicat, mais quand même, c'est le film d'un homme en colère, et c'est là que ça coince un peu, d'ailleurs, pour les autorités japonaises.
Oui, Hirokazu Kore-eda, accusé de promouvoir le crime dans une société pourtant remplie d'injustice, 16% d'enfants pauvres, peu d'aide sociale, quand on ne travaille pas, on dit de vous que vous êtes un assisté, des conditions de travail aussi qui sont souvent difficiles. Pour lui, tout ça, Dachanze, c'est aussi le message du film.
Le Japon a tendance à un très grand conservatisme de plus en plus affirmé. On a tendance à dire voilà quelle forme doit adopter la famille, le couple, etc. Il y a de grands principes moraux qui ont tendance à être édictés et qui, moi, me rendent personnellement très mal à l'aise. C'est qui m'a aussi donné envie de faire ce film-ci. Jusque dans les années 70 à peu près, il y avait quand même ce questionnement-là de l'influence du social, du sociétal sur l'individu. On avait quand même une certaine morale par rapport à ça, une certaine réflexion qui amenait quand même toujours à s'interroger sur les conditions qui auraient poussé un être humain, un individu à commettre un crime. Et depuis le déclin de l'économie japonaise, et en particulier ces 20 dernières années, il y a une nouvelle expression qui est vraiment énormément usitée au Japon, qui est la responsabilité individuelle.
Voilà, ça se passe aujourd'hui au cinéma, en tout cas ce portrait très atypique d'une famille au Japon. Palme d'or au dernier festival de Cannes, c'est un film inter, une affaire de famille du japonais Kore-eda. Merci Corinne.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès. Sur France Inter.
Le monde à l'envers de Jean-Marc Four. Jean-Marc, les jours passent, l'incertitude grandit autour du sort du Brexit. Theresa May va connaître son sort à elle, confrontée en tout cas à un vote de confiance au sein de son propre parti. Là, maintenant, au moment où on se parle, on y reviendra évidemment avec Sébastien Paour. Mais dans cette confusion générale qui nous arrive de Londres, vous prenez le sujet à rebrousse-poil et vous dites « Vive la démocratie britannique, c'est votre monde à l'envers ».
Bon, je vous l'accorde, je fais un peu de provoque. C'est vrai qu'au premier coup d'œil, c'est un sacré bazar. Même les plus malins des analystes politiques britanniques n'y retrouvent plus leurs petits et ne se hasardent plus au moindre pronostic. On est maintenant à 3 mois et demi de l'échéance. Le Brexit, c'est le 29 mars et personne ne sait où l'on va. Confusion, panique, division, choisissez votre vocabulaire pour qualifier la situation à Londres. Une petite compilation pour résumer. 1. Theresa May est ouvertement contestée au sein de son parti. Les conservateurs, ils vont se prononcer donc sur son sort dans les heures qui viennent. 2. Hier, elle a renoncé à la dernière minute à un vote au Parlement dans son ensemble sur le projet de Brexit. Elle avait trop peur de perdre. 3. La classe politique britannique s'écharpe dans tous les sens. Et 4. La société est divisée et 2. Des nations qui composent le pays, l'Écosse et l'Irlande du Nord, veulent rester dans l'Europe. Résultat des courses, le Royaume-Uni apparaît sans gouvernail, sans cap, avec à la clé le risque croissant d'une absence d'accord sur les conditions de sortie de l'Europe, une hypothèse qui effraie tous les acteurs économiques. Donc oui, à première vue, c'est le bazar, mais en même temps, ce bazar, c'est l'expression d'une démocratie en pleine action.
Donc la démocratie, c'est le bazar.
Disons plutôt que la vraie démocratie, ça peut créer du bazar de temps à autre. Et c'est ce qui se passe en l'occurrence. Premier appel, tout vient d'un référendum. Le peuple britannique a été consulté en 2016. Il a voté massivement et il a choisi majoritairement le Brexit. C'est démocratique et ça va mieux en le disant. Deuxième point, ce soir donc, Theresa May affronte un vote de défiance parmi les députés de son propre parti. Eh bien, il n'y a rien de plus sain, c'est l'incarnation du régime parlementaire britannique, ce régime qui, il y a 3 siècles, a inspiré Montesquieu dans l'Esprit des lois, texte fondateur de la démocratie moderne. La démocratie, ce n'est pas un homme ou une femme qui concentrerait dans ses seules mains l'essentiel des pouvoirs et de la légitimité. Et le principe britannique, c'est la délégation de pouvoir. Le peuple élit ses députés qui ensuite choisissent un leader. Il n'y a de légitimité que par délégation, pas par plébiscite, comme un peu dans le scrutin présidentiel français. Dans la démocratie britannique, le Premier ministre doit d'abord être soutenu par son parti, c'est le vote en cours, et ensuite il doit être soutenu par une majorité au Parlement, c'est ce fameux vote sur le Brexit qui va bien finir par arriver. Et sinon, eh bien le Premier ministre, il s'en va et on en change, et point barre, parce que le Parlement a le dernier mot. Et quand un seul parti ne détient plus la majorité à lui seul, ça contraint à la culture du compromis. C'est la règle en Allemagne, ça s'impose désormais au Royaume-Uni, et en France, bah, c'est souvent aux abonnés absents.
Sauf que du coup, il y a un risque d'instabilité politique.
Pas tant que ça, si on regarde le sujet avec du recul. En 40 ans, le Royaume-Uni n'a connu que 6 premiers ministres, pas plus qu'il n'y a eu de président en France. Et même Theresa May, vous me disiez vous-même tout à l'heure en préparant l'émission, Fabienne, elle a plus de vie qu'un chat.
Oui.
Et vous avez raison, on annonce sa chute toutes les semaines depuis 2 ans et demi. Elle est toujours là. La démocratie britannique crée des dirigeants résilients, résistants aux tempêtes. C'est une qualité pour un leader. Regardez Churchill, Thatcher, Blair, pour citer les plus marquants. Chacun pense ce qu'il veut de la politique qu'ils ont menée, mais on peut leur reconnaître un point commun, la résilience. En sachant qu'à un moment ou un autre, le Parlement reprendra la main, finira par les virer. Thatcher l'a vécu en 90, Blair en 2007. Il vient un moment où les élus du peuple jugent que le leader n'est plus le bon parce qu'il n'a plus d'idées ou parce qu'il est devenu trop condescendant. C'est peut-être ce qui arrivera à Theresa May, ou peut-être pas, mais quand bien même ça arriverait, ça ne serait pas pour autant le signe d'un grand bazar, c'est juste la démocratie en action. Quelle
horreur.
Et pour
ce qui est de Theresa May, Jean-Marc Fourmet, merci beaucoup, on va le savoir très vite. D'ici 20h, on reste ensemble évidemment pour le téléphone sonne, mais Sébastien Paour est là avant.